17h à 19h pour la balade intertropicale et les deux compères de service le dimanche midi de 12h à 14h, JP et Marcel pour Ambiance Soleil. Et nous, on se retrouve avec le plus grand plaisir samedi prochain, même heure, même antenne. Salut.
Radio G 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La nécessité d'augmenter les salaires, elle est claire. Il y a tellement de collègues qui aujourd'hui vivent dans la précarité ou vivent dans de mauvaises conditions parce qu'ils ne sont pas payés assez. Ça, c'est intolérable. Par contre, moi, il y a quelque chose qui est aussi intolérable. C'est l'idée qu'on pourrait nous acheter des conditions de travail de merde et de la souffrance avec du pognon en plus. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. Oui, il faut augmenter les salaires, mais il faut absolument déconnecter cette question avec le fait que ça pourrait rendre acceptable ce qu'on vit au travail. Quand on se pète le corps à soigner des gens, c'est pas avec 200 euros, 300 euros ou 500 euros qu'on rend acceptable le fait de finir cassé en deux, le fait de finir en accident de travail ou le fait de plus supporter son boulot et de vouloir s'en barrer.
On a beau être au cœur de la crise sanitaire que tu sais, comme tu viens de l'entendre, l'hôpital public va toujours aussi mal. Salut, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue à toi pour cette spéciale Radio Manif enregistrée dans la rue en octobre 2020. On est quelque part dans une ville de province comme il y en a plein en France. Une manif de plus en soutien à nos valeureux personnels soignants du service public, toujours aussi maltraités par les larbins politiques du capitalisme qui entendent nous gouverner. Et aujourd'hui, on va passer une heure avec des assistantes de vie à domicile, des femmes tout aussi courageuses que des urgentistes et qui, pendant le confinement, sont elles aussi montées au front pour s'occuper de nos anciens vivant encore chez eux. Les assistantes de vie à domicile, on n'en parle jamais. Ce sont pourtant des gens indispensables à notre société vieillissante et qui empêchent par exemple qu'on envoie trop tôt nos personnes âgées encombrer les EHPAD. Pendant cette heure qu'on va passer ensemble à battre le pavé, on discutera aussi avec des travailleurs sociaux. Et puis, vers la fin de cette émission, une autre manif de ce début octobre 2020, mais rien à voir avec la casse de nos services publics. La situation mondiale a beau être celle que tu sais, les fachos de la manif pour tous n'ont rien d'autre à faire que de continuer à propager leur haine. Heureusement, une vaste coalition réunie sous un étendard arc-en-ciel est venue contrer ces gens malfaisants. On en reparle donc en fin d'émission, mais pour l'heure, retour sur la manif de soutien à nos personnels soignants de ce 15 octobre 2020.
Déjà bonjour à tous et à toutes, et merci d'être là. Au plus fort de la crise, Monsieur le Président déclarait: ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Depuis, les discours ont changé et l'aspect financier est redevenu la priorité de notre gouvernement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes de nouveau mobilisés, professionnels du soin et usagers, pour un bien précieux et commun, l'accès à la santé pour toutes et tous. Aujourd'hui, sous la lumière d'une crise sanitaire sans précédent, nous payons le prix fort d'années de politique, de restrictions, de budget pour la santé. Aujourd'hui, nous subissons la destruction programmée de notre système de soins, tant au niveau hospitalier qu'au niveau médico-social. Aujourd'hui, la colère ne retombe pas. Les grands effets d'annonce de notre gouvernement n'ont pas été suivis de la mise en place d'un plan massif d'investissement et de revalorisation des carrières comme promis par le président en mars dernier, mais plutôt, comme on le craignait, d'une mascarade, le Ségur. Là où l'on demandait une revalorisation de salaire de 300 euros mensuels, nous obtenons 183 euros. Cette somme, même si elle est importante, ne rattrape pas les 10 années de gel de notre point d'indice. Là où l'on demandait l'arrêt des fermetures de lits, voire la réouverture des lits fermés, le gouvernement propose la création de 4 000 lits à la demande. Ces 4000 lits ne comblent pas la fermeture des quelques 100 000 lits depuis 1993 et les 3400 lits fermés seulement sur l'année 2019, dont des lits de réanimation, ce qui nous font cruellement défaut à cette heure. Là où l'on demandait l'embauche immédiate de personnel, on nous propose seulement la création de 15 000 postes, dont déjà 7 500 sont vacants. Ce chiffre, rapporté au nombre d'établissements de santé sur le territoire, correspond à 3 embauches par hôpital. Là où l'on demandait de rendre attractifs nos métiers, on nous propose encore plus d'heures supplémentaires, une remise en question des 35 heures et toujours pas de titularisation. Là où on demandait une augmentation significative des moyens financiers pour la sécurité sociale et donc pour le fonctionnement de l'hôpital public, on nous propose un plan d'économie de 4 milliards. Aujourd'hui, les mensonges sont découverts et les accords négociés au Ségur sont bien loin d'être satisfaisants. Nous ne pouvons pas accepter de négocier l'innégociable. Aujourd'hui, les collègues sont épuisés car notre gouvernement n'a toujours pas appris sa leçon et n'a pas anticipé une seconde crise qui était pourtant inévitable. Aujourd'hui, le manque de personnel, le manque de lits dans les structures de soins sont les raisons principales à la restriction de nos libertés avec la mise en place des couvre-feux. C'est pourquoi la lutte doit continuer. Le gouvernement reste sourd à nos alertes et plus grave, il continue de détruire notre système de santé. Nous ne pouvons pas le laisser faire car oui, en effet, notre santé n'a pas de prix.
Bonjour à tous. Je suis ici pour représenter les salariés de la Mutualité Française Centre-Val de Loire et particulièrement les aides-soignantes du service de soins à domicile de Saint-Cyr et de Chambray qui se sont mobilisées et qui sont en grève aujourd'hui parce que les 183 euros du Ségur, eh bien, n'y ont même pas droit parce que cet accord, il n'a pas prévu d'être décliné pour les services du médico-social, du handicap et du domicile. Ce qui est particulièrement injuste et va créer des salariés à plusieurs vitesses. Et donc il faut absolument se battre pour que cette mesure elle soit au moins déclinée dans tous ces services. Voilà, on va vous appeler maintenant à partir en manifestation, mais je crois qu'il y a le collectif Notre Santé en Danger qui veut s'exprimer.
Oui, alors le collectif 37 Notre Santé en Danger, il dénonce aussi le manque de moyens qui est donné à la santé. En fait, les malades sont renvoyés très vite chez eux, dans l'ambulatoire, à domicile. Il n'y a pas les moyens non plus. Il n'y a pas les moyens à l'hôpital, il n'y a pas les moyens dans les EHPAD et il n'y a pas les moyens à domicile. Et donc le collectif Notre Santé en Danger, il soutient tous les personnels, que ce soit de l'hôpital à domicile, sachant que pour que les malades ils soient bien soignés, il faut que les personnels soient bien traités, qu'ils soient bien formés, qu'ils soient en nombre suffisant et qu'ils soient suffisamment rémunérés. En plus, on dénonce aussi la mise en place du forfait hospitalier qui est dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le forfait pour les urgences. Il faudrait payer maintenant, ça serait un forfait de 18 euros dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit. Ça va être de plus en plus à donner pour les patients. Le personnel qui est lessivé, donc on a intérêt à se battre tous ensemble.
Babette, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui est marqué sur le panneau des collègues?
Soignants à domicile en colère. Domicile différent de la structure, même diplôme, même travail, augmentation Ségur pour tous. Et nous sommes de la Mutualité Française, le groupe Vicar.
En quoi ça consiste le boulot de soignant à domicile?
Le même boulot que soignant à l'hôpital.
Sophie?
Oui, alors nous faisons le même travail qu'à l'hôpital et en structure, dans les EHPAD. Et en fait, nous avons tous la même formation, le même diplôme, mais par contre, par rapport à la revalorisation des salaires, eh ben, on n'a pas tous les mêmes droits. C'est-à-dire que nous, l'augmentation du salaire, on n'y a pas droit.
Sous quel motif?
On n'en sait rien.
Ah, ben, c'est bien ça le problème, c'est qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien, c'est comme la prime personnes âgées, grand âge, on n'a pas le droit non plus. Donc voilà.
On travaille auprès des personnes âgées, donc voilà. chercher un peu l'erreur.
Mais c'est quoi, parce que vous travaillez dans une structure privée
Oui, c'est privé.
C'est privé. Mais par contre, dans le même groupe, il y a certaines structures qui ont droit à la revalorisation des salaires et nous qui sommes à domicile, nous n'y avons pas droit.
La psy, le médico-social n'y a pas le droit.
On n'a pas l'augmentation.
Faites-nous rêver un petit peu. Au bout de combien d'années de travail, vous gagnez le mirobolant salaire de
1290 euros au bout de 8 ans, un week-end sur deux, les jours fériés. Voilà.
Et horaire en coupure, je précise, pour ma collègue.
Ça veut dire quoi ?
Elle commence à 8h, finit à midi, elle reprend à 3h30 et finit à 7h le soir pour un salaire misérable. Voilà. Donc on a énormément de manque de personnel en ce moment, ils n'arrivent pas à recruter. Il manque une trentaine de personnes apparemment sur le groupe de la mutualité.
Soignante voilà. À domicile.
Aide-soignante à domicile. Donc c'est normal qu'ils ne trouvent personne avec des conditions de travail comme ça et un salaire qui ne suit pas.
Il y a un manque de reconnaissance surtout hein, de notre métier. Vraiment.
Valorisation, enfin voilà tout ça quoi.
Sophie, vous, au bout de combien d'années de travail, vous gagnez combien ?
Alors moi je suis une jeune nouvelle aide-soignante, ça fait 5 ans. Et c'est pareil, je gagne à peu près 1200 euros.
Je croyais que le gouvernement vous avait très généreusement octroyé une mirobolante prime de 183 euros, c'est pas ça ?
Justement, c'est cette prime que, pour le coup, que nous, on n'a pas droit. Voilà, on n'a pas le droit d'en bénéficier, nous.
Mais franchement, vous toucheriez 183 euros, vous ne seriez pas dans la rue aujourd'hui ?
Ce serait tous les mois. C'est tous les mois 200 euros de plus, ça fait. Voilà, on voit autrement.
Moi, je ne serais peut-être pas là, c'est sûr, parce que je me dis quand même qu'il y a eu un geste qui aurait été fait vis-à-vis de nous et que, oui, ça m'aurait quand même un petit peu satisfaite.
Franchement, je serais le gouvernement, j'aurais pu calmer votre colère avec 183 balles par mois. Excusez-moi, vous ne coûtez pas cher. Hein.
Oui, non, mais je sais, mais là, en fait, par rapport à d'autres soignants, là, il y a vraiment un sentiment d'injustice. Et du coup, pourquoi certains soignants y auraient droit et pas d'autres ? Et c'est ça, pour le coup, où là, on est vraiment en colère.
Il y a trop de différences entre le public,
travail, ça,
pour le même travail, ça. Le même diplôme. Enfin, c'est ahurissant. Donc, est-ce que c'est divisé pour mieux régner ? Je sais pas.
Oh, voilà, mais vous faites du mauvais esprit, Babette.
Non,
c'est quasiment du complotisme.
Oui, sûrement, peut-être.
Vous croyez que le gouvernement est en train d'essayer de séparer les gens comme ça pour les monter les uns contre les autres ?
Non,
vous avez mauvais esprit.
Oh, bah oui, 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 bien évidemment.
Et franchement, vous l'auriez eu, la prime de 183, alors c'est par mois en plus.
Oui.
Vous l'auriez eu, cette fameuse prime, vous seriez dans la rue aujourd'hui, Babette ?
Non, non, je serais dedans.
Je vais faire la même remarque sarcastique qu'à votre collègue. Votre vie coûte pas très cher.
Mais non, mais c'est le dépassion non plus dans ces cas-là.
On demande déjà le minimum. On est prêt à accepter d'avoir le minimum, mais on n'a même pas ça. Donc c'est fou, quoi.
On est obligé voilà, de se battre, de tout le temps faire des grèves. Enfin, voilà, c'est juste usant. Déjà que la situation est très compliquée. Et c'est ça, on rajoute d'autres choses. Enfin, voilà. Donc après, ça ne m'étonne pas que les soignants, ben, y a plus, dans peu de temps, il n'y aura plus de soignants.
On fera venir des Chinois, comme pour tout.
Voilà, comme les masques.
Il y aura des robots ouais, pour faire ce qu'ils peuvent.
Ils font en plus la promotion, le gouvernement fait la promotion pour que les gens restent à domicile le plus longtemps possible.
Mais on ne fait rien derrière. Pour que ça suive, quoi. Ni les aides à domicile, ni les auxiliaires de vie, elles n'ont même pas eu la prime Covid, je trouve ça... Alors qu'elles ont attendu 3 semaines avant d'avoir les masques. Enfin, je trouve ça un petit peu lamentable, quoi. Le domicile, c'est comme si qu'on n'existait pas, quoi. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. On cotise tous pour la retraite, pour avoir un salaire quand même. Voilà, on aime notre métier et notre métier n'est pas reconnu au jour d'aujourd'hui, quoi. Voilà.
Ils ne connaissent même pas les aides-soignantes à domicile. Je pense qu'ils ne savent même pas que ça existe.
C'est pour ça que je vous demandais de préciser en quoi consiste votre métier.
Non mais voilà. Je pense que les aides-soignants à domicile ne sont pas connus. Enfin, clairement. Alors qu'une aide-soignante à domicile, c'est la même qui est à l'hôpital, c'est la même qui est en structure, dans toutes les structures. On a le même diplôme. Donc voilà. Après, effectivement, ça va être le personnel qui va être... Enfin, les personnes qui sont suivies qui vont être différentes. Mais c'est la même chose sur l'équipe mobile Alzheimer, qui n'est pas connue. C'est une équipe qui travaille aussi avec le SIAD et elle n'est pas connue, elle intervient à domicile et elle est importante aussi pour les gens qui en ont besoin.
Dites-moi, en discutant avec vos collègues qui sont en structure, soit dans le privé, soit dans le public d'ailleurs, notamment au niveau des effectifs, c'est effrayant. J'avais de vos collègues d'une structure publique ou privée, je me souviens plus, de toute façon c'est à peu près la même sauce partout, ils me disaient on est 2 aides-soignantes pour environ 30 résidents. Ça veut dire en fait concrètement pas de temps à consacrer aux résidents. Est-ce que vous avez les mêmes contraintes en domicile ?
Non.
Alors, je vous avoue que j'ai vu un truc effrayant il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier film du réalisateur britannique Ken Loach qui s'appelle Sorry We Missed You. Et on voit une dame qui est aide-soignante mais au Royaume-Uni et carrément elle est fliquée. Elle a une application GPS sur son iPhone et son employeur dit mais attendez, vous avez mis tant de temps et tant de temps entre tel domicile et tel domicile. Pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêté à acheter du pain? Vous n'avez...
On n'est pas là. Enfin,
on n'est pas là.
Non, non, on n'est pas là.
On a ce fameux téléphone où on marque quand on arrive, quand on part, mais après ils sont pas là à nous dire on est souple au niveau des horaires, on a 5 patients de 8h à midi et après on s'organise comme on veut. Voilà.
5 patients à domicile.
Voilà.
On a le temps.
Attendez, 5 patients entre midi...
8h
et midi.
Parce qu'on dépasse des fois.
Donc ça veut dire qu'en 4 heures de temps, vous devez vous occuper de 5 personnes. Avec le temps de trajet compris entre les deux.
Enfin, là, moi, je ne veux pas revenir. Trajet à prendre en compte, déjà de 1. Entre deux patients, il y a quand même un temps de trajet. De 2, on n'est pas en structure, on est au domicile. Donc là, pour le coup, on doit s'adapter vraiment à la personne. Si la personne est au lit et tout ça, qu'elle met 5-10 minutes à se lever pour aller aux toilettes et tout ça, on est obligé d'attendre. Voilà, on s'adapte vraiment, pour le coup, à la personne.
5 personnes en 4 heures, temps de trajet compris, ça veut dire qu'en moyenne, vous pouvez consacrer combien de temps à chaque personne?
Alors, nous, les tournées sont faites de façon cohérente et on a le temps avec les patients. Mais malheureusement...
Dépendance de la personne aussi, ça dépend du GIR. Parfois, on a des patients qui sont plus difficiles que d'autres en fonction de sa pathologie. Quoi. Donc,
on peut rester 25 minutes comme on peut rester une heure de soins. Voilà. Donc après,
le manque de soignants, par contre, impacte parce qu'il y a une liste d'attente d'au moins 6 mois. C'est là où, en fait, sur notre métier, ça a un impact. Ça veut dire que les gens qui ont besoin actuellement du SIAD, des soins infirmiers à domicile, eh ben, il faut attendre 6 mois. Donc en 6 mois, vous comprenez bien que la situation de la personne va se dégrader. Enfin voilà, après c'est... Voilà. Le souci, il est là. Hein.
Attendez, je reviens à l'essence de ce que peut être votre métier. Ça veut dire qu'entre, disons, 25 minutes et 40 minutes, vous devez faire quoi? Aider une personne âgée à se lever, à se changer, à faire sa toilette, à se raser si c'est un monsieur?
Les soins de nursing.
Tous les soins d'hygiène de la personne.
Et s'habiller et...
Voilà, s'habiller aussi. Prendre le temps de papoter 5 minutes avec l'aidant, donc le conjoint souvent qui a besoin, qui est fatigué, épuisé. Puis toutes les autres complications, le lien avec les infirmiers, les kinés. Bon, voilà, on fait beaucoup de choses. Hein.
En fait, c'est un boulot qui appelle à beaucoup de compétences. C'est-à-dire que vous j'allais dire, je ne sais pas si c'est manipulé qu'il faut dire, mais...
Il faut être psychologue, esthéticien.
Soutien aussi pour les dents. Parce que pour les aidants, c'est très compliqué. On est un soutien aussi pour les aidants. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de facettes, en effet.
Soignant multitâche, on est à l'écoute. On soigne, on peut préparer aussi, enfin, aide à la prise de médicaments. Enfin, se rendre compte qu'il n'y a plus de lumière, qu'il n'y a plus d'eau chaude, prévenir la famille. Enfin, voilà, on est la présence qui fait que c'est un lien aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont que nous. Donc vous comprenez bien qu'en fait, des fois, c'est difficile. Et puis, il faut les écouter parce qu'il y a l'aidant qui est là, que la personne, le papa, la maman est en train de partir. C'est très compliqué et ils ont besoin d'une écoute et on est là pour écouter aussi.
Malgré les difficultés et le salaire pourri, pourquoi vous faites ce métier-là, Babette? Qu'est-ce qui vous a orienté dans cette voie?
Parce que c'est un métier du cœur. Enfin, je pense que pour moi, c'est important. Enfin, voilà. Après, on ne fait pas ce métier-là avec le salaire. Hein. C'est vraiment un métier qu'on fait avec le cœur. Voilà.
Marion, pourquoi vous avez choisi cette voie? Après tout, vous auriez pu devenir, je sais pas moi, trader. C'est bien, trader, on gagne du pognon, on est assis sur une chaise.
Exactement. Moi, je suis animée par des valeurs humaines et voilà, l'entraide, l'aide, aider les gens. Et je me sens très utile comme ça parce que même les patients, ils sont très reconnaissants envers nous, même si les patrons ne le sont pas au niveau du salaire. Les gens, voilà, ça nous motive de continuer, de les aider. Ils ont besoin de nous. Sans nous, ils resteraient au lit toute la journée et voilà, c'est tout.
Vous faites ça depuis longtemps, vous?
Moi, ça fait 5 ans.
Il y a un diplôme à passer? Comment on exerce ce métier-là?
Oui, il faut faire l'école d'aide-soignant pendant 1 an. On fait 6 stages pendant 1 mois chacun et 4 mois de cours.
Franchement, vous auriez pu choisir autre chose comme boulot, enfin, parce que c'est quand même un sacerdoce. Enfin, faut avoir envie, quoi. Parce que franchement, écoutez, les vieux, c'est pas sexy, surtout dans notre époque moderne de libéralisme échevelé. Ça produit pas, c'est pas sexy, c'est malade.
Non, c'est aussi nos mémoires, quand même.
Moi, j'ai toujours voulu être infirmière, ça s'est pas fait, donc j'ai été aide-soignante et ça me convient largement, finalement. Je suis plus heureuse en tant qu'aide-soignante parce que, justement, à domicile, qui est un lieu privilégié quand même, parce que j'ai le temps de faire mon travail correctement. Et si j'étais à l'hôpital en tant qu'infirmière ou même à domicile, je courrais partout et c'est pas possible, quoi. On peut pas, il faut ralentir, quoi.
Vous Laetitia, bonjour.
Bonjour.
En blouse blanche, avec sur les manches.
Ne regardez pas, en fait, c'est une ancienne blouse.
Et avec sur les manches, sur un sparadrap orange, avec marqué en grève de chaque côté.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous faites comme métier, vous ?
Alors, moi, je suis infirmière coordinatrice sur le SIAD. Alors, le SIAD, c'est un service de soins infirmiers à domicile. Donc, en fait, on va à domicile, on évalue un petit peu ce que les gens ont besoin à domicile en termes d'hygiène ou autre, ou mettre du matériel à domicile. Et en fait, il y a des aides-soignantes ensuite qui se déplacent à domicile et qui font donc des soins d'hygiène quotidien, en fait.
D'accord. Et donc, vous coordonnez les gens comme Babette ou Sophie ?
Voilà, ça, c'est toute mon équipe, du coup. Ouais, tout à fait.
Oh, comment j'aimerais pas... Alors, déjà, j'aimerais pas être à la place de Babette et des gens que vous coordonnez, parce que, bah, voilà. Mais alors, vous êtes au mauvais rôle, parce que vous êtes, si j'ose dire, entre le marteau et l'enclume.
Exactement, ouais.
Oh, ça doit être super.
Ouais, bah, on assume. Je suis ici, alors j'assume complètement, ouais. Non, mais c'est bien, il faut être ici, il faut montrer, voilà, déjà d'une, qu'on est une équipe, qu'on est solidaire, qu'on soit aide-soignante, infirmière, ergo, qu'on est tous ici pour la même galère, et voilà, et on n'a pas envie d'avoir nos diplômes, voilà, qui sont considérés comme au rabais, et voilà, on veut se faire entendre, et c'est pour ça qu'on est là tous ensemble.
Et là, je reviens sur ma question très pernicieuse que je vous posais à l'instant, c'est que vous êtes entre la direction et les gens sur le terrain.
Voilà,
donc juste l'endroit où il faut pas être, quoi.
Ouais, bah après, voilà, on fait avec ce qu'on est, et puis voilà, on essaie de faire quand même notre travail avec ce qu'on est, avec le meilleur de nous-mêmes, et puis notre but, c'est d'aider les gens, et voilà, à partir du moment où on travaille tous dans le même but, ça se passe toujours très bien, quoi.
Je demandais à vos collègues tout à l'heure, voilà, en 4 heures de temps, visiter 5 personnes, ouais, faire les soins, etc. C'est vous qui calculez ce truc-là ?
Exactement, ouais, on essaie.
Alors, est-ce que vous les fliquez avec des applications, avec GPS et tout ?
Alors, moi, j'ai pas l'impression de les fliquer, loin de là, mais non, plus
je. Babette et Sophie qui font non.
Non, je ne. Bah, non, mais après, voilà.
C'est
vous
vrai,
avez...
c'est vrai, non.
Mais non, c'est juste du coup.
On va se fâcher avec le chef, hein, vous avez raison.
Non, pas du tout. Non, on n'est pas du tout dans cette optique-là en plus. Ouais, non, tout à fait. Enfin, elles ont un téléphone du coup, où elles vont à domicile ou elles badgent en partant et en sortant. Donc en effet, ça peut être pris comme une sorte de flicage. Mais nous, en tout cas, on ne l'utilise pas pour ça. Moi, ce que je vois dans les téléphones, c'est surtout. Ça nous permet d'avoir à jour les transmissions ciblées, de voir ce qui se passe à domicile et nous, de pouvoir être actifs du coup au bureau pour mettre les choses en place quand c'est nécessaire assez rapidement. Parce qu'on n'a qu'une réunion hebdomadaire, donc c'est vrai que du coup, bah, on a besoin de cet outil-là pour transmettre au quotidien ce qui se passe à domicile, quoi.
Je faisais référence tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu la conversation, le film de Ken Loach, le dernier Sorry We Missed You, on voit, alors c'est au Royaume-Uni, hein, on voit une dame qui est aide-soignante à domicile. Par contre, son employeur, la flic, lui dit, pourquoi est-ce que vous avez mis autant de temps entre deux domiciles ? Pourquoi vous êtes arrêté à acheter du pain ? Pourquoi vous avez passé trop de temps avec telle personne et pas telle autre ? Parce que si j'ai bien compris la merveilleuse logique capitaliste qui nous amène tous maintenant, tout doit être rentable, hein, y compris le soin et le travail avec les personnes âgées, ça doit faire du fric, hein, normalement. Donc est-ce que vous ne recevez pas des injonctions, hein, à vous plier à la modernité, à répercuter sur la base ?
Non, alors peut-être qu'on n'est pas encore dans ça, heureusement. J'espère qu'on ne le sera jamais parce que bah, on travaille avec des personnes. Après, je ne sais pas ce qui nous attend par l'avenir. Peut-être que bah, le jour où on ne se retrouvera plus dans le travail qu'on fait, il sera peut-être temps du coup de plus rentrer là-dedans aussi. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, non, je ne pense pas que ça soit le cas.
Et vous l'avez eu la prime alors ou pas ? Parce qu'on a vu, hein, que le gouvernement, de manière très maligne, en distribue à certains, pas à d'autres. Puis toi, tu auras 500 balles, toi, tu auras 1000, et puis toi, tu auras rien.
Le Covid, vous voulez dire ?
Les cacahuètes que le gouvernement vous lâche pour essayer de calmer votre colère.
Alors, la seule prime qu'on a eue, c'est la prime Covid. Et en fait, on a toutes eu 1000 euros. C'était bien, quoi. C'était correct, du coup.
C'est vous satisfait, vous ?
Bah, c'est mieux que rien.
C'est ça.
Vous savez, j'ai ma maman qui est auxiliaire de vie. Elle a rien eu, elle. Donc, voilà, je me sens pas... je me plains pas, à vrai dire. Par contre, du coup, bah là, avec ce qui arrive, avec la nouvelle revalorisation que nous, on n'a pas, là, par contre, voilà, il faut se battre parce que c'est pas logique. On est aide-soignante, on est infirmière, on fait exactement la même chose que, du coup, dans d'autres services qui l'ont. Donc, pourquoi pas nous, quoi.
Écoutez, je suis stupéfait. Oui, j'entends 1000 balles de plus qui tombent, c'est bien. Mais franchement, au vu du service que vous rendez à la société, vous ne trouvez pas que votre existence coûte pas très cher ? Vos collègues sont allés au front pour 1000 balles ?
après, comme on n'a pas grand-chose à la base, on ne demande pas des 1000 et des 100 non plus, en fait. Mais par contre, on demande justice et on demande juste que ce soit l'égalité entre tous soignants. Quoi. Là, il n'y en a pas d'égalité pour le coup.
Vous avez eu les 1000 balles, vous ?
Oui, j'ai eu les 1000 euros. Mais après, là, la revalorisation des salaires, non, on n'a rien. Là, il y a un vrai manque de justice, en fait, et d'égalité.
C'est dégueulasse, voilà.
C'est comme les 100 euros, en fait, les 100 euros de personnes pour la prime des
grand âge,
on ne l'a pas. Alors qu'on travaille sur nos fiches de... Et sur nos fiches de paie, il y a marqué PA, donc personne âgée, voilà. Et on n'a pas ça.
Donc si on cumule la revalorisation des salaires plus la prime grand âge auquel on n'a pas droit non plus, ça nous fait presque 300 euros en moins sur notre salaire. Donc si on avait ça, bah, moi franchement je serais contente. Je demande pas. J'ai pas fait ce métier-là pour être riche, hein, en fait. Hein. On le sait très bien quand on
s'engage. Ouais, ça c'est sûr.
Mais attendez, Macron il est débile parce que pour désamorcer votre colère, il suffirait de vous lâcher quelques centaines d'euros.
Mais Macron ne sait même pas qu'on existe à domicile. Macron n'est même pas au courant qu'il y a des aides-soignants à domicile.
Et je ne sais pas s'ils sont au courant que oui, il existe des SIAD et j'ai l'impression, et même pendant le Covid, hein, on a très peu entendu parler du domicile au final. On a entendu parler du monde hospitalier, de tout ça, mais du domicile très peu. Mais je crois qu'il faut qu'ils comprennent qu'au départ, si nous ne sommes pas là, les hôpitaux seraient encore plus remplis en fait, et les maisons de retraite aussi. Donc on fait partie de cette chaîne en fait, et il faut à tout prix qu'ils prennent conscience que tous les maillons doivent exister de la même manière en fait.
Voilà. Je ne serais même pas sûr que les hôpitaux seraient plus remplis, puisqu'ils ont annoncé pendant le Covid que le problème c'était pas tant qu'ils avaient fermé des dizaines de milliers de lits à l'hôpital, mais qu'il n'y en avait plus assez. Et j'ai entendu une espèce d'eugénisme social, et par le fric qui s'est mis en place, c'est lui, elle, trop vieux pour être soigné, on va perdre du temps, mieux vaut laisser le lit à quelqu'un de plus jeune et de plus vaillant. Bon, alors de toute façon, ils risquent pas d'y aller. On a déjà décidé, on les a déjà condamnés, en fait, en disant, bah toi, trop vieux, pas prendre le risque, coûte cher.
C'est horrible. On est de qui pour dire qui doit vivre et qui doit mourir. Enfin, je trouve ça honteux, honteux.
Les personnes dont on prend soin actuellement, si on ne va pas chez eux, ils peuvent pas être hospitalisés parce qu'il n'y a pas de place ou ils ont rien à faire à l'hôpital, et ils peuvent pas aller en structure parce qu'il n'y a pas de place non plus. Mais ces gens-là ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Donc le domicile est important et les gens veulent rester chez eux aussi parce que tout coûte cher, la structure coûte cher, et ils veulent rester dans leur environnement, ils veulent rester avec leur famille, et c'est important de garder tout ça.
Et à présent dans cette émission, une voix que vous reconnaîtrez sûrement parce qu'il a été quelquefois invité à ce micro. Bonjour Charlie.
Bonjour, c'est un peu inquiétant d'entendre ça à la radio, de savoir qu'on peut être raconté, reconnu à sa voix. Ouais.
Charlie, donc infirmier en psychiatrie.
Toujours.
Comment ça va ?
Bah, c'est difficile en ce moment de répondre que ça va bien, vu la période. Non, c'est plutôt compliqué. En tout cas, professionnellement, c'est compliqué. Socialement, c'est compliqué. Donc, on a du mal à dire que ça va, ouais.
Mais le gouvernement n'a pas compris que vous étiez des gens formidables, qu'il fallait embaucher, vous donner des bras, des salaires, des machins. Je sais pas, il fut un temps, vous étiez des super-héros, les personnels hospitaliers.
Là où c'est super, c'est que le gouvernement et nos directions d'établissement, ils ont compris qu'il fallait embaucher. Là où ils sont plus capables de le faire parce que ils ont tellement cassé, tellement concassé, tellement dégoûté qu'il n'y a plus personne qui veut venir bosser. Donc maintenant ils nous font rire avec leurs beaux discours, leurs promesses d'embauche, mais en fait ils sont juste incapables de trouver des gens qui acceptent encore de venir travailler dans ces conditions. Donc là c'est de pire en pire, il y a de moins en moins de monde qui veulent venir bosser, il y a de plus en plus de monde qui choisissent de se barrer. Donc non, c'est vraiment un double discours et un discours opportuniste où maintenant qu'ils savent que plus rien n'est possible, ils racontent qu'ils veulent. Voilà, c'est je veux pas. Et là, on est dans une période où, malgré les beaux discours, il y a absolument rien de possible. Et un truc qui est intéressant, c'est que nous, on a une direction au CHU qui s'enorgueillit d'avoir agi très fortement dans le Ségur. Et en gros, nous raconte que le Ségur va tout régler et qu'il n'y a plus qu'à attendre les effets du Ségur et que tout va être modifié. Et qu'en plus, on leur doit à eux. Donc, qui sont dans une espèce de discours dénigrant, s'auto-attribuant des résultats magiques qui de toute façon n'arriveront pas. Très clairement, le Ségur va faire qu'aggraver la situation qu'on a déjà, et à part modifier, déréglementer le travail, nous promettre des heures supplémentaires ou la contractualisation de renoncer à nos jours de repos, rien ne va être arrangé, quoi.
aussi, il y a un truc qui m'a un petit peu effrayé. J'ai discuté avec de tes collègues, soit aides-soignants, soit... Certains n'ont pas eu la fameuse augmentation de 183 euros, machin. Ils m'ont dit, mais si on l'avait eu, on ne serait pas dans la rue aujourd'hui. Je comprends tout à fait, parce que voilà, presque 200 balles en plus sur la fiche de paye, bah voilà, c'est mieux que 200 balles en moins. Et en même temps, je suis vachement choqué, parce que je me dis, putain, mais vous coûtez pas cher, quoi. Votre vie d'être humain, là. 200 balles de plus par mois, en fait, c'est ce que vous coûtez, quoi.
Moi, il y a un truc, effectivement, qui est horrible là-dedans, c'est que la nécessité d'augmenter les salaires, elle est claire. Il y a tellement de collègues qui, aujourd'hui, vivent dans la précarité ou vivent dans de mauvaises conditions parce qu'ils sont pas payés assez. Ça, c'est intolérable. Par contre, moi, il y a quelque chose qui est aussi intolérable, c'est l'idée qu'on pourrait nous acheter des conditions de travail de merde et de la souffrance avec du pognon en plus. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. Oui, il faut augmenter les salaires, mais il faut absolument déconnecter cette question avec le fait que ça pourrait rendre acceptable ce qu'on vit au travail. Quand on se pète le corps à soigner des gens, c'est pas avec 200 euros, 300 euros ou 500 euros qu'on rend acceptable le fait de finir cassé en deux, le fait de finir en accident de travail ou le fait de plus supporter son boulot et de vouloir s'en barrer. Et là, il y a une espèce de rhétorique qui nous fait croire que l'attractivité, ça serait plus d'argent. Mais ça, ça a une limite, ça. Le tolérable, il s'achète pas forcément avec de l'argent. Donc oui, effectivement, c'est pas cher payé pour ce que c'est. En termes d'augmentation de salaire, si on prend que ça, non seulement elle est insuffisante, mais en plus, une fois de plus, elle est inégale, parce que augmenter les salaires, ça serait augmenter pour les plus petits salaires, ça serait un rééquilibrage, ça serait diminuer les inégalités. Or là, d'une certaine manière, quand on augmente pour tout le monde, ça veut dire qu'on augmente autant ceux qui sont déjà très payés, les directeurs, que nos collègues qui travaillent au SMIC. Donc ça, déjà, c'est pas acceptable, quoi. Et en plus, il y a vraiment nous faire payer le poids des chaînes, quoi. Nous faire payer, nous acheter notre acceptation de quelque chose d'inacceptable, et ça, moi, ça me convient pas.
Bonjour Aude.
Bonjour.
Qu'est-ce qui est marqué sur votre grande bannière qui est mal tendue, hein? Vous savez pas tenir une bannière, hein? Voilà, parce qu'on n'arrive pas à lire dessus.
Il y a du vent.
Ah voilà, ça y est. Il y a marqué délinquant solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
On est des travailleurs sociaux, on travaille dans une association à Tours. Donc on est des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés. On travaille avec la population SDF. Voilà, donc on est solidaires. Délinquants solidaires, c'était une manière de dire aussi qu'à un moment donné, dire ce qui ne va pas, ça n'a rien à voir avec de la criminalisation, en tout cas, des syndicats. C'est pas pour faire chier les patrons, c'est pas ça, en fait, l'idée. C'est de déplorer vraiment et de montrer à quel point le médico-social, faut qu'il se bouge. Faut vraiment qu'il se bouge, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est grave. Quand on regarde un petit peu les revendications, c'est les conditions de travail, c'est les augmentations de salaire, mais c'est surtout des embauches. C'est surtout des embauches. Partout, que ça soit dans le social, dans l'hospitalier, on vit tous la même réalité. Le public que nous, on accompagne, c'est un public précaire. Maladies chroniques, psychiatrie, SDF vieillissant à la rue. Et bien ça, c'est tout ce que ne veut plus l'hôpital public, parce que voilà, ça rapporte pas.
Alors concrètement, votre travail consiste en quoi?
Nous, on est sur le relogement des personnes qui sont à la rue. Et parler de relogement avec des populations qui sont extrêmement fragilisées, et ben ça nécessite du temps, ça nécessite des moyens, ça nécessite de l'humain, de l'écoute. Tout ce dont on est en train de perdre l'essence du travail social aujourd'hui.
Concrètement, vous faites des maraudes, vous allez voir les gens.
Nous, on n'est pas sur les maraudes, on est sur un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, c'est-à-dire de l'hébergement de longue durée pour des personnes qui sont à la rue. Ça, c'est une première partie de notre mission. Et on fait aussi de l'accueil d'urgence lié aux orientations faites par le 115. Donc voilà, on est un centre d'hébergement qui se trouve sur Tours. On en a perdu un il y a quelques années, un CHRS. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on concentre toutes les populations sur le même CHRS, donc avec le manque cruel de places, le turnover, la pression aussi financière de plus en plus de la part de la cohésion sociale, la direction de la cohésion sociale, parce qu'il faut faire du chiffre, il faut que ça aille vite.
Comment est-ce qu'on peut faire du chiffre dans le social? C'est un concept qui m'échappe. Je sais qu'on est dans une époque moderne et formidable, mais...
Moi aussi. Ça fait longtemps que je fais ce métier, mais je pense que j'ai rien compris. Il y a 12 ans, quand j'ai commencé, que je continue de rien comprendre. Non, clairement, c'est le jeu des chaises musicales. Aujourd'hui, la question des budgets, c'est ce qu'on ne retrouve pas dans un CHRS, on va le retrouver sur une autre mesure, mais sans jamais traiter le problème de fond. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des populations... voilà, le fameux concept de la patate chaude, et ben c'est ça, sauf que derrière les patates, en fait, c'est des humains. Et ça, c'est inadmissible. Inadmissible parce qu'on nous demande de faire toujours plus avec toujours moins, avec des trous dans la raquette qui sont énormes, avec des collègues de l'hosto qui sont aussi nos collègues partenaires avec lesquels on bosse. Et plus personne n'est à sa place, plus personne ne peut faire la mission pour laquelle il est là. Les infirmiers, les aides-soignants font du social, les travailleurs sociaux font du médical. Plus personne peut être sur le cœur de son métier, mais ça arrange finalement tout le monde en fait. Donc aujourd'hui, on est plusieurs travailleurs sociaux de notre service, ça te dit... On le fait aussi pour les résidents qu'on accompagne. Il y en a certains qui sont là, à la manif aujourd'hui avec nous, et qui comprennent notre démarche parce qu'ils nous voient bosser. Donc ils savent bien aussi à quel point les travailleurs sociaux, c'est une vocation. En tout cas, moi j'ai choisi ce métier par, vraiment par passion. Je l'aime profondément, mon métier.
Et je suppose que c'est pas pour le pognon.
Non,
fais-nous rêver. Au bout de 12 ans de boulot, tu gagnes le mirobolant salaire de...
1650 euros net avec un week-end.
Nanti, privilégié.
Avec un week-end, donc c'est pas énorme quand même. J'ai des diplômes universitaires, j'ai refait des formations. Oui, effectivement, au bout de 12 ans, on peut se dire, bah ça va, faut pas trop gaspiller. Sauf qu'à un moment donné, faut venir le faire, le taf, quoi. C'est des longues journées, on est sur des horaires décalés. Je commence à 7h le matin, je fais des 14-22, on travaille seul, très souvent. Et à un moment donné, c'est pas un métier qu'on peut faire seul, c'est un métier qui nécessite d'avoir du temps, du tiers-lieu, des collègues. C'est un travail qui est très éprouvant psychiquement.
C'est un boulot qu'on peut faire toute sa vie, ça. Je me suis toujours dit que travailleur social, au bout d'un moment, on doit s'user, parce que c'est de l'humain. Est-ce qu'on en a des caisses et des caisses en réserve ?
Je pense que tout travailleur social qui sera honnête avec toi te dira qu'à un moment donné, il passe par des phases où il se dit « Bon alors, quand est-ce que j'arrête ? Quand est-ce que je me remobilise sur une nouvelle orientation professionnelle ?» Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, être là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a l'espoir. Putain, c'est con, on en est à l'espoir fait vivre. Oh là là. Non, je pense vraiment que c'est un métier qu'on peut faire toute sa vie parce que c'est aussi une richesse extraordinaire, en tout cas, de travailler avec de l'humain. Moi, je m'ennuie pas, en fait.
T'as fait un peu d'ironie en disant sur l'espoir, mais je suis désolé, je vais te livrer ma conviction personnelle, mais moi, je ferais plutôt appel à une notion de foi laïque. C'est-à-dire, en fait, comme certains cathos font semblant de croire dans l'immaculée contraception, nous, on fait semblant de croire dans l'humanisme, mais en fait, on y croit quand même, mais sans y croire vraiment, mais on y croit parce qu'il faut bien croire en quelque chose. Enfin, voilà, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais voilà, cette notion de foi, toi, tu parles d'espoir ou de foi laïque, on croit dans des choses quand même, non ?
On croit dans des choses. Comme je disais, c'est un métier où il faut beaucoup rire. C'est un métier où il faut faire beaucoup d'humour, parce que c'est encore ce qui nous sauve. Donc on fait beaucoup d'humour noir, quand même. Et on n'hésite pas à le faire avec les gens, parce que les gens qu'on accompagne, ils sont loin d'être bêtes. Et à un moment donné, c'est parce que c'est mes semblables, tout simplement. Donc moi, c'est pas une histoire de cato ou quoi que ce soit. J'ai ça, c'est chevillé au corps, en fait, tout simplement. Voilà. Après, effectivement, des fois, je me dis, oui, c'est dur. Est-ce que je ferais pas carrément autre chose ? Sauf que... faire quoi ? Les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, c'est pas déconnecté de ce qui se passe d'une façon globale dans notre société. Enfin, clairement, on est en train de remettre en question tout notre système de protection sociale. Ça concerne pas que des éducs, ça concerne pas que des assistantes sociales, ça concerne pas que des soignants. Ça concerne toute la population. C'est ça qu'il faut que les gens y comprennent. C'est pas juste défendre le précaré d'une profession. C'est pas du tout ça. C'est aussi la transformation globale de notre société. C'est surtout ça. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne, et ce à quoi on s'associe, quoi. Voilà.
Ça doit être assez cruel pour un travailleur social. Donc je reviens sur la bannière. Alors, il y a quand même le terme de délinquant qui m'interpelle. C'est quoi ? Parce que vous êtes vilain parce que vous ouvrez vos gueules, c'est ça ?
Clairement, c'est ça, mais bien sûr. C'est pour ça qu'au début, peut-être un peu maladroitement, mais je te disais, ouais, c'est pas pour faire chier les patrons, mais globalement... aujourd'hui, on est dans l'ère du management participatif. Sauf que dès qu'à un moment donné, toi qui es sur le terrain, tu peux donner un petit peu de sens et de réalité aussi.
C'est beau, management participatif. Je l'avais jamais entendu celle-là. Oui, je connaissais mutualisation, optimisation. Oui, ça, c'est beau.
Science, tout ça, tout ça. Oui. Non, management participatif, c'est très en vogue. Wow. La novlangue, toujours là dans le travail social. Donc, c'était une petite boutade aussi.
Fédérer les synergies dans l'espace citoyen de la cité.
C'est très orienté à développement local. Social, projet,
très bien, projet.
On ne peut pas s'opposer à un projet. Okay. C'est pas possible de s'opposer à un projet.
Et citoyen, c'est toujours à la mode comme mot ?
Ah non, pas du tout.
Merde.
Non, pas du tout.
Je suis pas à la page.
Non, on va parler plutôt d'usager. Non, citoyen, ça fait longtemps que c'est has-been, ça.
Complètement has-been, je suis
complètement.
Désolé.
Ouais. On l'est beaucoup. Hein.
Alors, tu disais qu'il y a des usagers de la structure où tu bosses qui sont là aujourd'hui. Et je disais, mais pour des travailleurs sociaux, vous, travailleurs sociaux, quand vous faites grève, en fait, comme disait Sarkozy, d'abord, personne ne s'en rend compte. Et puis surtout, vous pénalisez les gens avec lesquels vous travaillez. Enfin, ça doit être cruel pour vous.
Non, je crois qu'on les pénalise si on ne fait rien, surtout. Je veux dire, les gens qu'on accompagne, ce n'est pas des gamins. Enfin, je veux dire, justement, les associer aussi à notre démarche d'aujourd'hui, de leur dire, tu sais pourquoi on fait une banderole ? Parce qu'en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les gens, ils sont pas cons, ils sont pas dupes, ils voient très bien ce qui se passe, ils voient bien qu'à un moment donné, il y a de moins en moins de personnel, que les moyens se raréfient, donc au contraire, ils ont bien conscience qu'à un moment donné, c'est pour pérenniser aussi des structures d'accompagnement social, qu'à un moment donné, on se retrouve dans la rue, ou qu'on se mobilise. Donc non, moi, je le vois pas du tout. Ce qui serait cruel, c'est de continuer à faire comme si tout allait bien, bon an, mal an. Ça serait cruel. En tout cas, moi, c'est là où je me sentirais pas du tout à ma place, et où je me dirais, bah, je suis en train de louper un truc, quoi. Voilà.
1984. Aude, la magie de la novlangue. Je me souviens en 2003 quand ça dégraissait à l'usine du coin, on parlait pas de charrettes, de licenciements, de dégraissage. On parlait de plan social parce que
plan de sauvegarde de l'emploi.
Maintenant c'est plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire que en fait quand on jette des gens dans le caniveau et qu'on les prive de leurs revenus, de leur travail et qu'ils ont déjà prévu que leur femme va les quitter et qu'il va falloir vendre le pavillon et tout ça, bah en fait c'est du social. Et toi comme partout dans votre secteur d'activité, en fait vous subissez ce qu'on appelle la novlangue. Orwell avait déjà prévu dans 1984.
Alors, je peux peut-être te donner un exemple. Celui qui me vient en tête, c'est autour de la notion d'hiérarchie. Alors, j'ai rien inventé, hein, mais j'aime beaucoup Franck Lepage. Et effectivement, je l'entendais dire il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce qui a remplacé, selon vous, il était sur une conférence gesticulée, il demandait au public, qu'est-ce qui, selon vous, a remplacé le mot hiérarchie aujourd'hui, notamment dans le travail social.
Alors, je peux jouer.
Alors,
J'avais dit synergie, c'est bien.
Ah, c'est pas mal, tu t'approches de l'idée du moment.
Collaboration, c'est pas mal, mais c'est un petit peu connoté.
Un petit peu connoté.
Parce que entre 40 et 44, ça a pris. Bon.
Tu chauffes. Je vais te donner la réponse. C'est projet.
Ah, projet, c'est merveilleux. Projet. C'est plein d'avenir, un projet.
C'est plein d'avenir. Ouais. C'est pétri de bons sentiments. Quand on te propose de travailler sur un projet, tu peux pas t'opposer comme ça au risque de passer pour quelqu'un de vraiment réfractaire au projet. Donc c'est très mal vu. Et effectivement, aujourd'hui, tout ce qui va concerner la hiérarchie, hein, on parle aujourd'hui de collaborateurs, ben voilà, ça a remplacé un petit peu toute cette notion de hiérarchie dans les services. Alors on parle projet. Et par les projets, ben effectivement, hein, ça gomme tout un tas de réalités sociales. Après, globalement, quand on regarde l'évolution du vocabulaire, le vocabulaire a énormément changé dans le social. Enfin, dans les années 70, on parlait d'inadaptés sociaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus facilement d'usagers. Les termes évoluent.
Alors, de manière un peu plus digue, ces derniers temps, sur France Intox, ils disaient les laissés pour compte de la croissance. Et ils n'ont pas eu de bol, quoi.
Alors, ceux qui n'ont pas eu de bol, ça, c'est un peu comme l'égalité des chances. Et non pas l'égalité des droits. Et moi... Donc voilà, on est en train de t'enrober ça dans du papier bonbon, tu vois, comme oh là là, c'est de la faute à pas de chance.
C'est l'égalité des droites.
Et oui, voilà, l'égalité des droites. C'est eux les délinquants solidaires, en fait. Ils se serrent tous la main, ils se tiennent tous, voilà.
Dire aux mots des choses qu'ils veulent pas dire.
Exactement.
C'est pareil, hein, on en revient à Orwell 1984. Hein, le mensonge, c'est la vérité. La guerre, c'est la paix, voilà. Etc.
Et puis la police de la pensée, d'une certaine façon. Il faut penser efficience, objectif. Voilà. Les objectifs, oui, c'est un terme très à la mode, objectif aujourd'hui, mais je pensais à Johann Chapoutot, qui est un historien qui a pas mal écrit justement sur. Le nazisme et ses analogies avec le management, puisque pendant le Troisième Reich, l'idée c'était de rayonner très loin avec peu. Et finalement, son idée, et notamment dans Mein Kampf, il est beaucoup question d'objectifs. Et il y a des mots aujourd'hui qu'on emploie dans le travail social, et c'est assez flippant hein, quand tu lis le bouquin de Chapoutot. Objectifs, efficience, vitalité sont des mots qui reviennent très souvent. Donc je suis pas en train de dire que le management est issu du nazisme, mais c'est quand même très curieux qu'aujourd'hui, des mots qui ont fondé aussi cette théorie du Troisième Reich soient utilisés dans un domaine comme le travail social. Et de plus en plus souvent, on peut le retrouver, l'efficience, l'efficacité, les objectifs, les planifications. quand tu les restitues dans le contexte.
Ça fait résonner un autre truc, c'est que je sais que le fabricant de voitures américain Henry Ford était un gros fan des nazis. Il envoyait un gros chèque à Hitler tous les ans pour son anniversaire. Finalement, Ford, bah, c'est l'inventeur du Fordisme, hein, de l'efficacité, les chaînes de montage, l'optimisation.
Certaines formes aussi de standardisation des pratiques sociales. Et quelque chose auquel je suis très frappée de voir aujourd'hui, c'est que ce qui a remplacé l'éthique dans le travail social, c'est the bonne pratique. Aujourd'hui, on te parle beaucoup des bonnes pratiques. Merci, l'Haute Autorité de Santé, la HAS. On est gavé de ça au quotidien sur le boulot. On nous parle des bonnes pratiques professionnelles, comme si la bonne pratique, c'était la marche à suivre. Donc on gomme à ce moment-là toutes les spécificités de chaque individu, parce qu'il y a une façon de penser. La police de la pensée dont je te parlais tout à l'heure, tu vois, enfin, tout se tient. Je ne suis pas du tout une fan des théories complotistes. C'est simplement d'avoir des éléments de compréhension aujourd'hui de comment tout ça s'organise et de comment tout le système de protection sociale se démantèle. On est dans l'ère du winner, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Et puis, il y a toujours besoin d'un loser. Moi, j'ai choisi de travailler avec ceux qu'on appelle les losers. Par contre, c'est eux qui m'ont tout appris. Mon métier, je le dois aux gens de la rue qui m'ont tout appris sur le métier. Donc, c'est pour ça aussi que je suis là. C'est vraiment pour ça.
Ils se permettent tout maintenant. Il y a eu un gros tournant aussi quand Sarkozy s'est mis à invoquer la mémoire de Guy Môquet, dont le papa était communiste et Guy Môquet était lui-même un communiste. Et tu vois ce mec qui piétine, qui salit la mémoire du combat communiste. Et là, il n'y a pas encore très longtemps, quand Édouard Philippe, ancien Premier ministre, a annoncé la continuation de la casse du système des retraites, eh ben, il a invoqué les jours heureux et le Conseil national de la résistance, et en annonçant que ce serait en plus une grande victoire sociale pour les femmes que de casser les retraites. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et finalement, quand les gens n'ont pas de passé, on peut leur raconter n'importe quoi sur leur avenir.
Exactement, c'est ça. On leur fait croire qu'ils ont tout inventé et qu'ils sont à l'origine de tout ça, quoi. C'est pour ça que continuer à parler de notre histoire sociale, bah, c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, la culture d'entreprise, c'est comme si le passé n'existait pas. On est sur l'instant. Et on le voit aussi, hein, les formations du travail social, elles sont conçues comme ça aujourd'hui aussi. On est par socle de compétences. On ne regarde plus les choses d'une façon globale. Voilà, on acquiert une compétence sur un domaine. Manager, diriger, coordonner. Alors que tout ça...
Obéir.
Obéir, bien sûr, effectivement. Voilà, t'obéis au projet. Voilà, donc tu participes au projet. Tu n'obéis pas...
De manière synergique.
Voilà, exactement. Voilà, dans un souci de développement social ou ce genre de conneries, quoi. Voilà.
J'ai envie de vomir.
Le monde est beau, hein, franchement. C'est les jours heureux. Hein, c'est...
Bon, écoute, là, je crois que pour cette interview, nous avons, dans une certaine synergie, rempli notre objectif fédératif et solidaire.
Complètement. Je pense qu'on a été très efficients, très efficaces, et que c'est vraiment moteur dans une dynamique de groupe de pouvoir se resservir de tous ces éléments de compréhension, ces clés de compréhension. Je pense qu'on pourrait finir par un PowerPoint. C'est très à la mode, ah, aussi, le ouais. PowerPoint.
C'est pas encore has-been ?
Ah, il y a peut-être des trucs un peu plus modernes, mais là, je sais pas, là, je...
Suite de cette spéciale Radio Manif, c'est avec une autre manif, et là on change de sujet. Te voilà le 10 octobre 2020 au cœur d'une ville de province. Et malgré la situation sanitaire que tu sais, les fascistes de la soi-disant manif pour tous n'ont rien d'autre à faire que de continuer à étaler leur haine sur le pavé et dans les esprits. Alors pour tout te dire, hein, c'est des copines qui m'ont signalé que les LGBT et compagnie organisaient une contre-manif pour tous, qui a d'ailleurs été un véritable succès. Alors pour être tout à fait honnête avec toi, les droits des personnes ayant une sexualité autre que celle des hétérosexuels cisgenres et compagnie dans mon genre ne me semblent pas être un sujet plus important que les droits des autres êtres humains. En fait, hein, la ghettoisation et la sectorisation des luttes auraient plutôt tendance à m'agacer. Hein. On voit, par exemple, ce que le communautarisme et la division ont pu engendrer au niveau de la vie politique aux États-Unis. Mais il m'est bien évident que si les fachos de la Manif pour tous m'obligent, par leur pression nauséabonde, à choisir un camp, bah, vu que le monde est plus en déficit d'amour qu'en excédent d'amour, bah, évidemment hein, que je suis du côté des gens qui revendiquent le droit de s'aimer qui qu'il soit. Et donc je me suis pointé ce samedi 10 octobre à la contre-manif pour tous. J'avais encore l'esprit en train de randonner pendant mes vacances d'été en moyenne montagne. J'étais pas super prêt à affronter ce que j'ai affronté ce jour-là. Et je peux te dire que mon retour en ville a été très très dur. Alors bon, je sais pourtant ce que c'est qu'un facho, hein, mais franchement, j'ai été littéralement abasourdi et sidéré par la haine des gens de la Manif pour tous. J'étais en fait pas du tout psychiquement préparé à recevoir cette haine que j'ai reçue en pleine gueule, comme si c'était une matière pire qu'un seau de merde. Et je te l'avoue, hein, j'ai beau être un soi-disant mâle, quinca, blanc, cisgenre, hétérogène et compagnie, cette haine des gens de la Manif pour tous qui a priori ne m'est pas destinée, bah cette haine m'a fait chialer et j'ai même manqué de rentrer chez moi et de ne pas faire le reportage qui va suivre. Heureusement, après avoir pleuré d'indignation sur l'épaule de mon pote Ludo de Radio Béton qui lui aussi était là, j'ai ravalé mes sanglots et j'ai trouvé le courage de faire ce petit reportage. Luna, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, on peut quand même décrire la situation. Il y a des manifs pour tous qui sont de l'autre côté, un cordon de policiers, casqués, boucliers qui avancent, et de ce côté-ci, des drapeaux LGBT, des drapeaux arc-en-ciel, tout un tas de panneaux sans équivoque. Là, par exemple, on voit « Marie était une mère porteuse » ou « Mon corps, mon choix » et « Ferme ta gueule ». Ça, c'est pour le décor. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît?
Alors, du coup, aujourd'hui, donc là, on est au niveau des Halles, à Tours. Et il y a la Manif pour tous qui a organisé une manifestation pour défendre la famille, les valeurs familiales, les valeurs françaises, etc. Donc bon, la Manif pour tous, on les connaît depuis le temps. Hein. Et du coup, ce qu'on a fait de notre côté, c'est qu'on a organisé une contre-manifestation en réaction à ça, pour réaffirmer nos droits. Le fait qu'on n'était pas d'accord, que c'était absolument pas respectueux vis-à-vis de nous, que c'est juste homophobe, transphobe, c'est juste des vieux réacs qui en ont marre.
Ils ont rien d'autre à foutre en pleine période d'épidémie, etc. Pour quelqu'un comme moi qui est un peu distrait, qui rentre de vacances par exemple, il se passe quelque chose à l'échelle nationale. Pourquoi est-ce que ces gens de la Manif pour tous sont-ils dans la rue?
Alors oui, c'est un appel national de la Manif pour tous à manifester. Je crois qu'il y a une cinquantaine de manifestations dans différentes villes en France aujourd'hui. Et c'est un projet de loi bioéthique. Alors déjà, il y a l'allongement du nombre de jours pour réaliser un IVG qui, pour passer de 12 à 14 en France, de 12 à 14 semaines. Donc ça, voilà, ils sont aussi pour la plupart contre l'avortement, ce genre de choses. Et puis, du coup, il y a toujours les projets de loi de bioéthique pour l'accès à la PMA, pour les couples de femmes lesbiennes et les femmes seules. Et tout ça, ils sont pas d'accord parce que ça perturbe leur petite image bien cadrée qu'ils ont de la famille. Donc ça leur fait peur.
Andrea, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu es drapé dans un... C'est un drapeau arc-en-ciel? Non, il n'est pas arc-en-ciel, le tien.
Non, c'est le drapeau transgenre. Et c'est pas le mien, ça, celui de Luna. Mais je veux quand même porter les couleurs parce que je me sens concernée. Et je voulais juste rajouter que en période de Covid, je ne comprends pas pourquoi une manifestation est acceptée, sachant que la Gay Pride a été annulée et que la Manif pour tous est restée, sachant que la Pride a été annulée et que la Manif pour tous allait rester.
Vous avez corrigé, là, parce qu'effectivement, moi, je connais Gay Pride. La Pride, ça veut dire toutes les sexualités,
ouais.
C'est ça?
C'est ça, c'est-à-dire que Gay Pride, c'est un terme qui est assez exclusif parce que finalement, dans LGBTI+, il n'y a pas que le G, justement, il n'y a pas que les personnes homosexuelles, il y a aussi les personnes trans, et d'ailleurs, il n'y a pas que les gays, il y a aussi les lesbiennes, les personnes bisexuelles, les personnes... Enfin, voilà, il n'y a clairement pas que les personnes gays, donc Pride, c'est plus inclusif, ou alors Marge et Fierté en français, c'est préférable.
C'est vrai qu'en française, c'est bien aussi.
Ouais, mais des fois, on ne peut pas tout dire dans la langue française.
Queer, comment on le dit en français par exemple?
On dit queer et puis on se comprend. Après, il n'y a pas vraiment de mots qui représentent ça en français, donc queer, ça nous va.
Alors je vous avoue que pour un mâle moyen, quinca, cisgenre, voilà, enfin c'est compliqué
compliqué de se tenir au parfum, d'abord du vocable, du machin, ce qui fait que souvent, quand t'as pas les bons mots, la discussion elle peut se tendre, parce que bah voilà, je vois bien que c'est un combat qui met les gens sur des charbons ardents et qui met les nerfs à vif. Je vous avoue là que j'ai eu du mal à vous trouver tous les deux en tant qu'interlocuteurs. Bon, d'abord parce que vos camarades sont très occupés à vociférer contre la manif pour tous, donc déjà c'est pas un contexte facile pour trouver des interlocuteurs. Mais même quand t'es voilà, mal cisgenre, gaulois, je sais pas quoi, et que tu vas vers ces luttes là, ça peut être aussi ardu quoi. Il m'est arrivé des fois dans des moments de colère, parce que évidemment quand je comprends pas, d'abord je suis en colère, et puis comme j'essaye d'être moins con, j'essaye de comprendre. Donc je comprends qu'il y a bah voilà, un combat, une souffrance, des nerfs à vivre. Mais des fois quand tu fais un peu l'effort d'aller vers et que tu te fais un peu envoyer chier, ça m'est déjà arrivé dans des moments de colère de dire mais putain, mais restez-y dans vos ghettos. Et en fait bon, tu vois, j'ai quand même franchi le pas, je suis venu ce matin parce que je me dis non, voilà, si cette société et ces gens-là m'obligent à choisir un camp, bien sûr que je suis dans le vôtre.
Ok, mais je comprends complètement, parce que c'est sûr que...
Même pas une question, je te parle de ma gueule, mais...
C'est pas grave, mais je peux complètement comprendre, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans ces communautés, quand on n'est pas dans ces milieux, forcément qu'il y a plein de choses qui nous échappent. Et moi, la première, c'est-à-dire que je suis blanche, par exemple, et tout ce qui est lutte antiraciste, eh ben, je suis pas concerné directement. Donc, forcément, il y a plein de choses qui m'échappent aussi. Bah, pour être allié, pour pouvoir soutenir, il faut se renseigner un peu de son côté et demander aux personnes concernées. Et des fois, c'est vrai qu'on peut dire des choses qui sont maladroites. Le tout, c'est de pas trop prendre du temps aux gens, parce que ces personnes sont déjà bien assez occupées, et d'essayer de faire, je dirais pas l'effort, mais d'être censé et de se renseigner de son côté. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de documentation, plein de références, on a la chance d'avoir Internet, c'est très pratique et c'est vraiment un super outil pour se renseigner sur tout ça.
Et moi, j'avoue que ce qui me touche le plus, c'est encore d'avoir un être humain en face de moi qui m'explique. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir pris ce temps. Et puis, bon, de toute façon, il y aura un avant et un après MeToo. Pour moi, je vois plus le monde de la même façon. Mais tu vois, je suis passé par des phases un peu d'incompréhension qui pouvaient passer par de la colère avec des copines. Par exemple, pendant le dernier mouvement social, j'ai vu un jour une copine qui distribuait des tracts. Je lui ai demandé qu'elle m'en donne un. Et c'était pour convier à une AG où les gens de mon genre n'étaient pas les bienvenus. Ça a eu le don de me mettre en colère en me disant, mais dans votre lutte là, vous vous privez de la moitié de l'humanité. Enfin, moi, je suis pas super informé, je demande qu'à comprendre, mais j'ai le sentiment de vivre un truc d'exclusion. Oui, d'accord, il y a Internet, mais des êtres humains qui se parlent, c'est bien aussi, non?
Alors, on est bien d'accord que les êtres humains qui se parlent, c'est très bien, c'est important. Après, là, ce dont vous parlez, donc les réunions en non-mixité, sans les hommes cisgenres, du coup, j'imagine, c'est aussi nécessaire pour les personnes pour pouvoir être écoutées, pour pouvoir parler de choses dont on ne parlerait pas aussi facilement s'il y avait des personnes non concernées. Et en fait, on est bien d'accord que une personne non concernée pourra jamais être autant au courant, autant comprendre que les personnes qui sont directement concernées. Et justement, entre personnes concernées par une oppression, c'est important pour nous de pouvoir se rencontrer juste entre nous et d'être que des personnes à comprendre pour pouvoir parler de choses que tout le monde comprendra et de pas avoir des gens qui, même si c'est absolument pas mal intentionné, qui poseront des questions qui nous servent pas à nous. On a aussi besoin de ça pour nous. Et il y a du temps à consacrer aussi pour les autres, justement, pour leur faire comprendre. Mais ça, c'est du temps qui est pour nous et on en a aussi beaucoup besoin.
Enfin, ça me plaît pas. De toute façon, c'est comme ça. Donc, il a bien fallu que je l'accepte et que je réfléchisse là-dessus. Mais je t'avoue que quand la copine m'a donné ce tract pour un truc auquel j'étais malvenu, pour le coup, je me suis retrouvé dans le camp des violeurs, des oppresseurs et des machins. Non, mais tu vois, je l'ai vécu violemment comme ça. Bon, de toute façon, je n'ai pas eu d'autre choix que de réfléchir à la question de pourquoi éprouve-t-il le besoin. Mais peut-être qu'en prenant du temps, du cœur et du temps de cerveau disponible, on peut dépatouiller tout ça. Et je me suis dit que si ça avait lieu, c'est que c'était nécessaire.
Bah complètement. Et après, il ne faut pas se sentir directement concerné. Enfin, sauf si c'est le cas. Et dans ce cas-là, si vous êtes vraiment un violeur, bah faut bien se remettre en question, quoi. Mais quand on nous met dans le camp des personnes qui peuvent oppresser, il faut se dire, est-ce que c'est moi personnellement ou le groupe social dans lequel je suis qui est attaqué? Et bien entendu, voilà, c'est pour pas prendre de risques. On veut pas justement qu'il y ait des hommes qui se ramènent et puis qui soient lourds ou qui fassent du mansplaining, c'est-à-dire expliquer aux femmes ce qu'elles savent déjà, par exemple. Donc c'est pour ça, c'est par mesure de sûreté plus que chaque homme personnellement, etc. Et je voudrais rajouter une dernière chose. Alors c'est pas très radiophonique, mais là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a la Manif pour tous qui se réunit pour, je cite, pour la jeunesse, pour le futur. Et en face, on est là à dire mais non, en fait, c'est nous les jeunes. Et on le voit bien, justement, c'est pas radiophonique, mais nous, je sais pas la moyenne d'âge, ça doit être 20 ans, vraiment. Et eux, ils sont, il y a des cinquantenaires, il y a que des vieux de leur côté. Alors il y a quelques enfants qui doivent être les petits-enfants que les grands-parents ont pris en week-end. Mais je pense que c'est assez visible que bah, la jeunesse, le futur, elle a déjà fait son choix sur comment serait la vie après. Et ils n'ont rien à nous dire et ils changeront rien.
Est-ce que de ce côté-ci de la manifestation, on est plus nombreux qu'en face?
Alors ça, j'en sais rien, je saurais pas dire.
À vue d'œil, oui, on est plus nombreux ici que de leur côté. Aujourd'hui, à Tours.
Je suis pas sûr, je pense qu'ils sont un petit peu plus.
Merci d'avoir pris le temps, en tout cas.
Merci à vous aussi.
Voilà, c'est ici la fin de cette spéciale Radio Manif que tu pourrais écouter sur notre site olemixetlavoixoff.com ainsi que tout un tas d'autres émissions plus passionnantes les unes que les autres. Et en attendant, on se retrouve très bientôt sur cette même antenne, même lieu, même heure. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G 101.5 FM.
Je m'envole loin dans les nuages, qu'à perdre mon âme. Au moins là-bas, je vois pas de place. Sur les pierres tombales, on a la dalle à chaque fois. J'ai ma plume à errer. Regarde sous mes yeux, je dirais pas que je suis dur à cerner. Je parcours les cieux.